RFI.
Radio Foot International.
Éric Chorin.
Bonjour à toutes et à tous, amateurs de foot du monde entier, c'est le Radio Foot du mardi. Radio Foot, hein, c'est comme une équipe de foot, quand les titulaires ne peuvent pas jouer, on fait appel aux remplaçants, voire aux remplaçants des remplaçants. Heureusement, Laurent Salerno qui réalise l'émission et Louis Lafargue qui m'a aidé à la préparer sont fidèles au poste. Lui, il n'a plus de poste, c'est José Mourinho, un entraîneur pas vraiment comme les autres, on l'a pas surnommé le Special One pour rien. Il a offert la Ligue des Champions au FC Porto et à l'Inter Milan, il a été champion dans 4 pays différents, Portugal, Angleterre, Italie et Espagne, mais c'est fini. Pour le mot à Manchester United, le club l'a annoncé ce matin. Mourinho n'est plus l'entraîneur du futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. On va décrypter ce limogeage et passer en revue ses conséquences pour Mourinho, Manchester et même Paris avec nos consultants. Et puis, parce qu'il n'y a pas que le PSG et Lyon en Ligue des Champions, nous reviendrons sur le tirage au sort de la Ligue Europa où Rennes sera le seul représentant français en 16e de finale. Rennes qui ne devra pas faire de bêtises face au Betis Séville, un club qui fait partie du top 5 en Liga où le Barça de Messi fait la course en tête alors que le Real Madrid sauve son escapade annuelle au Mondial des Clubs. Pour passer en revue ces sujets, 3 consultants sont dans le studio à mes côtés. L'un des 3 joue mieux au foot que les autres. Je vous laisse deviner lequel. Bonjour Franck Simon.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Ça n'est pas vous.
Non.
Bonjour Naïm Magnol.
Salut Eric.
Salut vous, à tous.
Vous non plus?
Non.
Presque.
Ok. Bonjour Eric Rabessandratana.
Bonjour Eric, bonjour
voilà.
À tous.
Je crois que c'est vous.
Je signe tout de suite, j'espère. Sinon...
Martin Guez du service des sports de RFI est également là pour m'épauler. Bonjour Martin.
Bonjour Eric, c'est pas moi non plus.
Vous taquinez le cuir également, je le sais. Vous avez joué ce week-end?
Non, les gilets jaunes empêchent tout.
Oh, ah bah voilà,
non, pas partout. Moi j'ai joué contre Versailles ce week-end.
Eh ben il y en a quand même un qui a joué donc ce week-end et il est présent dans ce
il
studio.
Il était en gilet aussi, c'est pour ça.
Allez. Et ganté comme d'habitude, ganté comme N'Golo.
Les gants de Franck Simon et bientôt on va parler de José Mourinho.
I won more premierships alone than the other 19 managers together.
Respect. Laurent Salerno a planté le décor. Est-ce que vous l'avez reconnu? Oui, c'est bien José Mourinho qui réclamait le respect alors que Manchester United venait d'encaisser un 3-0 face à Tottenham. C'était fin août. Il rappelait qu'il avait gagné plus de titres de champion d'Angleterre, 3 que tous les autres entraîneurs de Premier League en poste réunis. Mourinho, déjà en danger cet été, à trois jours près, il aura tenu jusqu'à l'hiver, mais ça y est, c'est fini avec Manchester United. Martin Guez va nous préciser ça dans un instant, mais bon, c'était un peu chronique d'une éviction annoncée, non?
Oui, c'est tout à fait ça.
Naïm.
Tout à fait ça, ouais. Parce que dès cet été, quand les dirigeants refusent de l'appuyer pour le mercato, les défenseurs centraux qui veulent, bon, on comprend bien qu'il sera envers et contre tous, une fois de plus. Et puis, le vestiaire, là, au fur et à mesure lâché, principalement Paul Pogba et les gens qui aiment Pogba. Et puis, les relations avec la presse, avec les supporters, les mauvais résultats, évidemment. Et on a encore vu ce week-end ce que ça a donné contre Liverpool. Donc, l'accumulation de tout ça fait qu'on se doutait bien que ce qu'il allait partir. Alors après, il y a une petite question, à quel moment est-ce qu'on le fait partir avant, est-ce qu'on le fait partir maintenant, est-ce qu'on laisse le Boxing Day? Bon, on savait pas trop, finalement ça sera avant.
Est-ce que c'était quand même le pire départ en championnat d'Angleterre du club depuis près de 30 ans, Franck, Eric?
Ouais, non, moi c'est vrai que les résultats et puis même surtout je pense que le relationnel avec les joueurs, c'est ça qui était le plus choquant en fait par rapport à on peut rater un début de saison, on peut rater des matchs et tout ça, mais le traitement qui est réservé à certains joueurs, notamment Pogba, c'était assez surprenant pour parce que c'est un joueur qui est important dans l'effectif et en plus c'est un joueur qui peut être déterminant pour les résultats de l'équipe. Donc le traiter comme ça, alors peut-être qu'il peut avoir il avait certainement des problèmes avec Paul Pogba, mais le boulot de l'entraîneur c'est de tirer le maximum de ses joueurs et dans cette situation il a failli quoi. Donc c'est un peu l'image qu'il a rendue à chaque fois qu'on l'a vu, cet énervement, ces discours, c'est voilà toujours avec des petits pics sur les joueurs. À un moment donné, on est lâché par les joueurs, c'est obligé.
Donc on s'y attendait, Franck, surtout dans ce club malgré son prestige, qui avait quand même une ambiance plutôt familiale du temps de Sir Alex.
Ouais, mais il était par rapport à l'ADN du club, par rapport à la façon dont on joue, à la tradition. Mmh. C'est important. Un club comme Man U, c'est un club avec, c'est une institution tout simplement. Vrai. Et lui, il était pour rebondir sur les propos de Naïm, oui. Il était en fait contre. Il était contre l'ADN. Il était en opposition permanente. Et c'est une posture. Quand on la tient, il faut être très fort. Le problème, c'est que vous l'avez souligné, le départ a été calamiteux.
Oui.
Il peut pas être plus fort que l'institution. C'est impossible. Et surtout pas à Man United. Aujourd'hui, on le sait très bien, il y a un turnover très important sur les bancs européens et encore plus en Première Ligue. Malgré tout ce qu'il a apporté, et je le disais juste quelques minutes avant qu'on entre en studio, je vous disais, pour moi, en fait, c'est devenu la caricature de ce qu'il a été. On peut pas lui enlever, hein, je pense que tous autour, on va dire, voilà, ça on lui enlève pas.
Oui.
Mais
oui.
En revanche, ce qu'il a fait ces derniers temps,
c'est qu'il a changé.
C'est ça. Et forcément, à un moment donné, vous êtes homme d'affaires, vous êtes patron d'un club, il y a une direction. Vous voyez que ça fonctionne pas, il faut faire quelque chose. Vous allez pas saquer les joueurs.
On va en reparler juste pour mémoire, Martin. Mourinho à Manchester, on en retiendra quoi? Et pour resituer ce passage dans le nord de l'Angleterre, ça représente quoi par rapport au reste de sa carrière?
Eh ben, c'est quand même un palmarès plutôt maigrichon, parce que Mourinho avec Manchester United, on attendait des gros titres, au moins un titre de champion d'Angleterre ou des grosses performances en Ligue des Champions. Ben, il n'en a rien été. Finalement, il aura gagné une Ligue Europa, ce qui est pas mal, ce qui est une Coupe d'Europe, mais ce qui est la petite Coupe d'Europe. Il aura gagné une Coupe de la Ligue anglaise et un Community Shield, mais ça reste des trophées pas de premier ordre. Puis surtout, c'est un Manchester qui avait énormément de moyens. Et il aura fait deuxième l'an dernier, mais sinon, première saison, il termine sixième. Cette année encore, on l'a dit, c'est le pire début de saison de Manchester United depuis 1990-1991. Ils ont que 26 points après 17 journées. Donc, dans le parcours de Mourinho, c'est forcément un échec. Il aura pas réussi, comme les autres, finalement, à prendre la succession de Sir Alex Ferguson.
Non, je t'en prie, fini.
Succession difficile à prendre.
Ouais, succession difficile
mais
à prendre.
Mais il est pas le seul, parce que là, on va lui taper dessus, peut-être, on va le critiquer. Mais il y en a eu d'autres avant lui qui se sont essayés et qui n'ont pas forcément réussi.
C'est vrai que tu précises, parce que ça fait un moment que ça tourne pas comme Eric, ça devrait tourner. Bah, voilà, Manchester.
Ferguson, c'est un entraîneur qui a 25 ans et derrière, c'est trois entraîneurs en 5 ans.
Ouais, dont Moyes, Van Gaal.
Oui, qui n'ont pas spécialement mieux réussi que lui, ni dans les résultats.
Mais il a quand même gagné quelque chose.
Bien sûr.
Martin Michelinier, il a gagné quelque chose, mais ça ne suffit pas quand on
fait ça. C'est pour ça que son passage n'est pas totalement un échec, on va dire, parce qu'il y a trois titres dès la première année, et c'est vrai que Moïse et Van Gaal l'ont pas fait. Ce qu'il faut mettre en relation, c'est par rapport aux investissements qui ont été faits.
Exactement,
400 millions d'euros sur 11 joueurs. Je parle de l'ère Mourinho. 400 millions de recrutement sur 11 joueurs, ajoutez à ça les masses salariales, les primes et compagnie, pour au final, vous n'avez pas de Champions League. Vous n'avez pas de titre de champion d'Angleterre, et vous avez un relationnel, et vous écornez l'image du club et de l'institution.
Vous mettez quelques millions sur le banc,
voilà,
en plus.
Vous en mettez sur le banc, vous écornez l'image du club et de l'institution, et au final, le retour sur investissement est très maigre. Oui, il y a une Ligue Europa, et c'est tout. Et c'est tout. Et donc, la mission n'est pas réussie pour Mourinho. Après, évidemment, ceux qui sont passés avant lui n'ont pas fait mieux. Et puis, il n'est pas entièrement responsable. Certains joueurs, Ed Woodward, on peut dire plein de choses, mais la mission n'est pas réussie.
Puis, il y a peut-être une question dans le jeu aussi. On est habitué à Manchester, à Old Trafford, de voir un jeu plutôt offensif, plutôt flamboyant. Et il y a peut-être eu un tournant cette saison. Ça a été le match un partout contre Wolverhampton, où à la fin du match, Pogba s'en prend clairement à Mourinho en disant, c'est pas normal qu'à domicile, on développe pas du jeu, qu'on donne pas tout pour l'attaque. Et c'est là, à la fin du match, où Mourinho lui dit, écoute, tu seras plus jamais.
C'est la rupture, c'est le point de rupture.
C'est le point de rupture de cette équipe. Moment-là.
C'est vrai.
C'est un des points de rupture, je pense.
C'est difficile de. Là, on a deux caractères forts. On a l'entraîneur qui doit se remettre en question par rapport à un résultat, et t'as le joueur qui est peut-être certainement énervé par rapport à la prestation qui a été faite sur le terrain et le résultat. Et à un moment donné, tu parles, c'est peut-être pas le bon moment, mais voilà, on est arrivé dans cette situation parce que. Il y a des choses qui ont traîné, il y a une relation qui n'a pas été saine dès le départ, ce qui fait que à un moment donné, c'était obligé d'avoir une rupture. Et tu regardes cette année Manchester United, c'est capable du pire comme du meilleur. C'est-à-dire que tu es capable d'aller gagner à la Juve.
Ouais.
Et tu te dis, mais comment ils ont fait pour gagner
à la Juve? Ils ont perdu 9 fois sur 10. Hein.
Non, mais c'est ça.
Tu le rejoues, 9 fois sur 10, ils sont pliés.
Tu te dis, comment ils font pour aller gagner là-bas, dans leur situation?
Oui.
Et puis après, ils te font des matchs catastrophes. Et là, tu te dis, bon.
En première ligne. Ouais.
Pour revenir sur le style de jeu qui ne correspond pas à Manchester United, ça, après, on le savait dès le départ, aucun club n'a recruté Mourinho pour son jeu, pour son fond de jeu. On sait très bien comment il joue. Et
mais c'est alors comme ça aussi. Pourquoi on l'a recruté?
C'est un manager, c'est une star, c'est quelqu'un, voilà, c'est un meneur d'hommes, c'est un mec qui est capable de transcender un vestiaire. Ce qu'il a fait de pire, que Eric le disait avec Pogba, il peut aussi le faire dans l'autre sens. Il l'a fait à Chelsea, par exemple, avec Eden Hazard, notamment, avec qui ça se passait très bien. Il l'a fait au début au Real avec Cristiano Ronaldo. Il a ce pouvoir à la fois de sublimer une star ou d'en faire son pire ennemi. Souvent, ouais, il fait les deux
Tu dis, il a le pouvoir. Moi, j'ai l'impression que sa baguette magique,
elle est peut-être un peu enrayée. Je suis d'accord.
Ou émoussée.
Je suis assez d'accord.
Là, il l'a fait, mais tu peux pas vivre que sur ton passé.
Ah, mais moi, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, tout à l'heure, quand tu parlais de caricature, moi, je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'il s'est galvaudé, qui est devenu la caricature de lui-même, là où il a tort à 1000%. Parce qu'on sait que Mourinho, comment il joue, on sait que c'est jamais un type qui a un jeu flamboyant. Là où il a tort à 1000%, c'est de détruire son équipe, de détruire les joueurs, de détruire l'institution, en jouant comme il joue, en mettant que des mecs derrière, simplement pour montrer à ses dirigeants, vous avez vu, vous m'avez pas donné les joueurs que je voulais cet été, regardez comment j'emmerde le monde. Et je mets tout le monde derrière, et tant pis pour les résultats. Mais évidemment qu'il le fait sciemment. On connaît Mourinho. Mourinho, c'est un type qui a d'ego, qui rentre dans. C'est un homme de collusion, de collision. On sait comment il est. Bien sûr que quand vous jouez avec 6-7 joueurs à vocation défensive à domicile contre Liverpool, c'est pour emmerder le monde. Bien sûr qu'il le fait exprès.
Donc ça a marché par le passé.
Bien sûr.
C'est un système aussi qui a eu ses résultats. Mais aujourd'hui, il a trouvé ses limites, peut-être aussi parce que les joueurs,
je pense,
dont il dispose, c'est pas le même matériau sur le plan humain. C'est pas aussi fort que ce qu'il a eu à gérer.
Ils ont peut-être pas envie justement de jouer de cette manière aussi, donc faut adhérer au message de ton entraîneur.
Et puis le football a changé, le football évolue. Ce que tu pouvais inculquer au mec de Chelsea au milieu des années 2000 ou même à l'Inter à la fin des années 2000 en 2010, aujourd'hui c'est trop compliqué.
Mourinho n'évolue pas donc.
Mais non, il évolue pas. Il a arrêté d'évoluer depuis 5-6 ans maintenant, Mourinho.
Y compris face on parlait de Paul Pogba parce que c'est vrai qu'il est très symbolique. On parle d'un joueur qui était l'un des vice-capitaines de l'équipe, c'est-à-dire c'était quand même une personnalité importante. Mm-hmm. Pour le vestiaire,
oui, qui avait eu le temps de s'imposer dans l'équipe, qui avait fini par s'imposer.
Souvenons-nous qu'il avait signé à Man U, il en est parti et on l'a refait signer.
Oui.
Et il est revenu. Voilà.
Et à cette époque, plus gros transfert de l'histoire du foot.
Exactement.
À ce moment-là. Entre-temps, il est devenu champion du monde.
Et donc, quand tu le mets de côté, c'est très très lourd. Et il faut pouvoir assumer, il faut pouvoir faire en sorte que ton équipe, sache se renouveler. Elle n'a pas su se renouveler, ni dans le jeu, ni dans les résultats.
Et le cas Pogba est très flagrant parce que c'est une star mondiale. Il a été champion du monde. Mais
vous avez vu sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, la photo
qui a été retirée.
Il a flingué Juan Mata. Il a flingué Alexis Sanchez. Il est progressivement en train de flinguer Lukaku. Donc ça se limite pas au seul cas Pogba. Il y a des très beaux joueurs de foot à Manchester United. Moi, je pense que, on va en parler tout à l'heure, on a à moitié réglé le problème parce que maintenant que Mourinho est parti, il y a aussi un autre problème, c'est la qualité de l'effectif à certains postes.
Il faut mettre Di Stéphane, le fils de Di Stéphane.
Qu'en termes de timing, on sentait que c'était un moment particulier pour lui, en termes de pression aussi, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, quand ils se qualifient pour les huitièmes, quand ils vont gagner 1-0 avec le but de Fellaini à la dernière seconde en Ligue des Champions contre Berne, il explose complètement sur le banc. Et c'était des images qu'on n'attendait pas forcément. Ou je ne sais pas si vous avez les images en tête, mais il explose.
Il jette les gourdes d'eau.
On sentait qu'il y avait une tension vraiment.
Mais alors justement, pourquoi maintenant? Pourquoi est-il limogé maintenant? Est-ce que c'est la défaite?
Moi, ça me paraît logique. Hein,
Justement, dites-nous pourquoi. Est-ce que c'est pas la défaite face à Liverpool? Non, c'est pas ça.
Non, mais ça aurait été plus facile de le faire à la trêve. Bon, voilà, on est arrivé au bout d'un truc. Mais en fait, on va laisser un peu plus de temps au club pour réfléchir et puis finir déjà voir si ça fonctionne déjà sans lui pendant deux matchs.
Ça sera pas pire.
De toute façon. Non, mais déjà, on va voir la réaction des joueurs par rapport à
parce qu'il n'y a pas vraiment de trêve en Angleterre. Hein,
parce que là, les joueurs, il y a la moitié des joueurs qui doivent être contents.
Quand même, on
va peut-être voir ça sur le terrain aussi par rapport à la réaction.
Moi, il y a un élément qui me paraît indispensable. Vous êtes au lendemain du tirage du PSG. C'est aussi ça qui compte.
Oui, certainement.
Vous êtes au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions.
Ce tirage au sort et les huitièmes de finale à venir, on se projette et on veut le préparer.
Évidemment, l'ambition, c'est sans doute le point le plus important.
Oui. Moi, dans le timing, ça me paraît plus logique.
C'est concomitant. C'est-à-dire, Eric le disait aussi, peut-être que tu aurais pu le faire quand il y avait une trêve internationale. Ils ne l'ont pas fait. Là, ils sont qualifiés. On connaît le tirage depuis hier. On le fait.
Ça veut dire quoi? Que le mercato pourrait aussi servir à renforcer l'équipe et que l'entraîneur.
Tu te prépares pour ce match.
Ouais. C'est la deuxième moitié du problème. Hein. C'est maintenant que tu as dégagé Mourinho. Il faut refaire au moins une défense et trouver un attaquant en pointe capable de très haut niveau pour concurrencer le PSG. Parce qu'aujourd'hui, tu es dirigeant de Manchester United. T'as beau être une institution, avoir un poids économique, marketing, pressing, tu joues le PSG et ce que le PSG peut te proposer, ne serait-ce que sur sa ligne d'attaque. Mais bien sûr que t'as peur. Bien sûr que tu fais dégager ton entraîneur.
Parce qu'ils sont outsiders sur ce match.
Ah bah évidemment. Et, et Manchester United outsider face au PSG, c'est quand même historique. Hein.
Oui, c'est vrai. Penchons-nous justement sur les conséquences de cette rupture. J'en rigole, mais c'est vrai. On commence par le club. Qu'est-ce que prévoit Manchester, Martin, justement là
pour... Alors il y a eu un communiqué ce matin du club qui explique que visiblement ils vont faire appel à un intérimaire pour toute la saison et ils prévoient seulement pour l'an prochain de bien préparer le terrain et, d'avoir un manager fort, de chercher une, sûrement un grand nom pour la saison prochaine. Donc normalement ils devraient sûrement faire appel à une source interne pour l'instant jusqu'à la fin de la saison. Après c'est les communiqués, on n'est pas obligé de
croire ce qu'ils vont nous dire. Ça dépendra.
Alors un ancien joueur, un intérimaire justement pour finir la saison un peu comme moi dans Radio Foot aujourd'hui. ça pourrait être qui?
Michael Carrick. Michael Carrick qui a fait l'essentiel de sa carrière, qui est un enfant de Ferguson entre guillemets, qui était l'adjoint de Mourinho, qui connaît le club en interne aussi,
le
bien
vestiaire aussi,
le vestiaire, qui est proche de certains joueurs du vestiaire.
C'est une sorte de Genesio local.
C'est ça.
Ça paraît logique.
C'est la continuité. Ça paraît logique sur cette saison de mettre Michael Carrick. Après dire qu'il fera toute la saison. Il reste quand même 6 mois. Hein. Moi, je pense qu'un intérim 6 mois. Hein. Donc, moi, je pense qu'entre temps, on va faire venir un mec quand même.
Ok, Naïm. Et vous, Eric,
ça paraît beaucoup aussi. Après, ça paraît logique, Carrick, parce que il a vécu à l'intérieur du groupe. Donc, ça veut dire qu'il sait comment ça se passe, le fonctionnement, les joueurs. Certainement, quand on est adjoint, on a peut-être un peu plus l'oreille ou l'écoute des joueurs. Donc, il y a peut-être des choses qui se sont passées, qui se sont échangées.
Il a des leviers que lui peut utiliser.
Ça veut dire qu'il sait très bien que les problèmes qui sont prégnants en place dans le vestiaire. Ce sera peut-être plus facile et plus rapide pour changer ces problèmes parce qu'il les connaît et qu'il a la relation déjà avec les joueurs.
Et puis c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est un enfant du club, c'est un enfant du cru par rapport au public.
C'est un retour,
C'est un retour vers les années Ferguson. Moi, Michael Carrick, je suis pour. Hein, je suis très content pour lui. Hein.
Mais reste à savoir donc si ça ira jusqu'à la fin de la saison. Après, donc, si on l'a bien compris, il devrait y avoir quelqu'un qui va venir, il y avoir un vrai successeur. Alors, est-ce qu'il faut un habitué du championnat anglais ou un technicien venu d'ailleurs?
Bah écoutez, si on se penche sur les résultats depuis quelques années en Première Ligue, les techniciens qui viennent d'ailleurs réussissent plutôt pas mal, hein, Guardiola, Jürgen Klopp, Unai Emery, Arsène Wenger en son temps. Donc après c'est la manière dont les dirigeants ce qu'ils veulent faire de leur club. Qu'est-ce qu'on fait du club? Est-ce qu'on continue d'amasser les millions, d'amasser les stars et de faire des gros vestiaires et il faut un type pour manager tout ça? Est-ce qu'on essaye d'avoir un projet peut-être plus profond avec des jeunes joueurs soit du club, soit des petits britanniques et refaire une institution essentiellement anglaise, donc prendre un type qui travaillera plus sur le long terme, peut-être moins dans le management de stars, mais plus sur un travail de fond. Ça, après, c'est les dirigeants qui vont voir, mais les prochains jours, les prochaines semaines vont en dire plus long.
Alors, quelle piste peut-on envisager? Il y a des gens disponibles sur le marché.
Laurent Blanc, moi j'aime bien le choix de Laurent Blanc parce que.
Ça sera intelligent.
Un ancien du club.
Un ancien du club.
Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, peut-être.
Ouais, non, et puis il a une super relation avec Ferguson aussi, et puis il connaît le club de l'intérieur. Je pense qu'il faut quelqu'un qui connaisse le club de l'intérieur, qui ait participé à cette institution. Et moi, je pense que c'est très important.
Et sans doute aussi adoubé par l'institution. Oui,
voilà, c'est ça.
Et qui est le respect. Laurent Blanc correspondrait à cette définition.
C'est vrai.
Ouais. Il y a un nom qui est vite arrivé ce matin en rumeur, c'était Mauricio Pochettino, mais après, il faudra le faire bouger de Tottenham.
Si
c'est pour attendre la fin de la saison, ça, c'est plus facile de le faire venir de Tottenham. Est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Je pense que c'est un.
Laurent Blanc paraît effectivement. Voilà, enfin, c'est le portrait.
Laurent Blanc, c'est plus simple, en fait. Oui. C'est-à-dire que là, il est libre. Tu fais venir là.
Ça paraît tellement simple que ça risque de pas être lui du coup. Alors ça pourrait être qui d'autre?
Ça pourrait être quelqu'un d'autre.
Non mais ça, il n'a pas une autre piste.
Ça dépend
du projet de jeu. Et du projet de management.
Il y a Zizou sur le marché qui peut correspondre au.
Tu veux frapper très fort.
Football, hein.
Te mettre un entraîneur qui a une aura vis-à-vis des joueurs, qui a un palmarès, qui est capable sur son nom de faire venir des joueurs, tu fais venir Zidane, c'est la bonne pioche. Après, d'abord, est-ce que Zidane a envie d'y aller? Est-ce que Manchester United a envie sur plusieurs années de travailler avec Zidane, qui de toute façon sera un type qui gère des stars, Zidane. C'est pour les gros vestiaires. Donc ça va dépendre du projet. Souvent, quand on parle des sources internes, on dit toujours les anciens joueurs. Donc on parle de Solskjaer, on parle de Giggs. Ces mecs-là sont en poste. Bon, Gary Neville, son expérience d'entraîneur à Valence, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, faire venir des anciens, ou alors vraiment aller rechercher des joueurs peut-être un petit peu plus anciens encore, mais globalement, l'avenir immédiat de Manchester United, si on se fie aux joueurs qui est à disposition, aux ambitions des dirigeants, et aussi à ce qui marche en Première Ligue, parce qu'il faut aussi regarder ce qui se fait à côté, hein, un entraîneur étranger paraît être la solution la plus intéressante.
Une petite question, presque une provocation, Arsène Wenger, c'est impossible hein.
Je crois pas.
Non, juste parce qu'il aurait éventuellement le profil, mais bon, c'est un peu le grand rival.
Je crois qu'ils avaient quand même une belle relation avec
avec Mourinho.
Avec, non, avec, avec Ferguson.
Avec Ferguson. C'est pas une solution. C'est
vous êtes sceptique, Franck.
C'est pas une solution d'avenir, je pense.
Voilà.
Je pense que l'expérience, il connaît bien le championnat, mais
il représente pas l'avenir.
Est-ce qu'il va s'installer sur la continuité longtemps? Je suis pas sûr.
Allez, une question pas si innocente que ça en passant. Est-ce que cela change quelque chose pour le PSG en prévision du 8ème de finale qui va opposer les deux clubs en février?
Forcément.
Avant d'entendre vos réponses que vous avez déjà données, je vous propose d'écouter ce que disait Gianluigi Buffon après le tirage au sort, mais avant le limogeage de Mourinho, c'était sur RMC.
Un sorteggio medio. Noi dobbiamo essere, secondo
C'est
me,
un tirage au sort moyen. Nous devons être courageux. Il faudra avoir sur le terrain la même mentalité que celle montrée lors des derniers matchs de Ligue des Champions. Mais la Ligue des Champions reprend en février seulement. C'est dans 2 mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Ils peuvent changer d'entraîneur, de joueur. Il y a le mercato. Selon moi, ce n'est pas le bon moment pour faire l'analyse de cette équipe.
Gianluigi Nostradamus Buffon, l'avait-il prévu? C'est l'expérience qui parle, quoi. Il le voyait venir.
Bien sûr, il connaît, il sait que. Il sait qu'on peut, de toute façon, nous aussi, on le sait, hein, on l'a vu avec le Real la dernière qui était en difficulté. Et puis Paris a fait face à un Real complètement différent.
Paris a déjà connu ça l'an dernier, effectivement,
sûr,
avec le Real.
C'est pour ça qu'il faut rester mesuré et respecter, surtout une institution comme Manchester, il faut respecter. Hein.
Mais alors justement, les Red Devils peuvent-ils retrouver leur âme, leur jeu aussi, et être plus forts qu'annoncé face à Paris? Vous y croyez vraiment? C'est possible ça?
Oui.
Pourquoi ce serait plus fort?
Plus fort que maintenant, oui.
Oui.
Après,
oui.
Plus fort que Paris, je ne sais pas.
Plus fort que maintenant, d'abord, parce que si tu fais venir un entraîneur qui a l'adhésion de son vestiaire, déjà, dans l'état d'esprit, dans l'envie, dans l'engagement, c'est pas du tout la même chose, premièrement. Après, moi, je pense que le départ de Mourinho ne règle que la moitié du problème, le fameux problème d'adhésion du vestiaire. Après, il y a le jeu à proprement parler. Moi, ce qui m'intéresse toujours en premier plan, si vous comparez l'effectif de United à celui de Paris, il y a un écart. Donc, ça veut dire qu'il faut, au minimum, sur ce mercato d'hiver, recruter une charnière.
En faveur de Paris, là.
En faveur de Paris, évidemment. Ouais. Ce que Paris propose individuellement, collectivement, United l'a pas. Faut être honnête. Donc, sur le mercato qui arrive, il faut recruter, au minimum, une charnière centrale. Et un numéro 9 de très haut niveau qui marque dans les grands matchs. Ça fait beaucoup, je vois votre mou, mais moi je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas beaucoup sur le marché de joueurs qui correspondent à ce profil, ou alors qu'il faudrait débaucher dans d'autres clubs ou qui seraient libres. Mais c'est aujourd'hui l'autre moitié du problème. Parce que maintenant qu'on fait partir Mourinho, c'est bien, l'atmosphère est apaisée. Ça ne réglera pas les problèmes défensifs et les carences que vous avez devant en attaquant.
Il n'y a pas que ça non plus.
C'est ça,
il n'y a pas que ça non plus. Effectivement, il y a renforcé considérablement un groupe, sportivement. Mais, n'oublions pas aussi tout ce qu'il faut apporter là, au niveau du mental. C'est là que ça se fait aussi. Parce que il est pas avéré qu'ils pourront recruter ces fameux joueurs.
Bien sûr.
Naïm a bien insisté là-dessus. C'est pas aussi simple, même si tu t'appelles Manu, de faire venir à toi des joueurs importants, même s'il y a ce défi du Paris Saint-Germain qui doit intéresser. C'est là-dedans qu'il faut aussi densifier, qu'il faut mettre de la fraîcheur dans le mental, apporter de cette fraîcheur, mais ça ne passe que par des résultats.
Eric.
Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Franck. Et en plus de ça, il faut une prise de conscience des joueurs. Parce qu'il n'y a pas que le changement d'entraîneur. La prestation sur le terrain, c'est les joueurs qui font aussi. Alors, on peut ne pas aimer son entraîneur, mais à un moment donné, les joueurs, faut avoir du caractère, faut savoir répondre sur le terrain dans les moments difficiles.
C'est pas ce qu'on reprochait à Paris, justement, il n'y a pas si longtemps.
Bien sûr.
Ouais.
Ça peut aller très vite. Mais
il y a eu
tout un travail de Tourelle au départ.
Ouais.
Ça a été long.
Ouais.
C'est pas venu à cause des 3 matchs qui sont arrivés derrière. C'est parce que il a préparé le terrain avant. Il y a eu des moments plus difficiles. Et donc ça, les joueurs doivent aussi avoir une prise de conscience. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que ne pas mettre tout sur Mourinho et se dire,
il est parti, évidemment.
On va être les meilleurs du monde. Non. Là, il faut se remettre en question aussi. Hein.
Et les résultats là les prochains matchs peuvent effectivement, je pense, influer sur ce recrutement. Si les joueurs qu'on contacte voient qu'il y a un renouveau et dans le jeu et dans l'esprit, c'est plus simple de les attirer à vous parce que l'argent, il est là, il va falloir le débloquer et puis les actionnaires du club vont le faire pour renforcer, pour être de taille contre le PSG au moins.
Et je suis d'accord et c'est pour ça que le nom de l'entraîneur va être aussi très important.
Je ne
dis pas que Michael Carrick n'a pas de crédibilité, il en est une en tant que joueur. Mais si demain vous faites venir un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions ou qui a la réputation de faire jouer ses équipes parce qu'il l'a fait ailleurs et qu'il a eu des résultats, ce sera quand même un peu plus facile de faire venir des mecs venant d'autres clubs ou libres que juste de jouer avec Michael Carrick en disant on est une institution, rappelez-vous de nous.
Convaincre pour vaincre et mieux vaincre.
Alors vous parliez de faire venir des joueurs, mais il y a aussi justement, vous l'avez beaucoup évoqué, le cas de Paul Pogba. Lui, on l'annonçait pratiquement peut-être sur le départ lors de ce mercato. Ouais. Est-ce qu'il va rester? Est-ce que ça change totalement la donne?
À mon avis, il va rester, bien sûr.
Il prend la main là.
Bah, il y avait une espèce de bras de fer qui s'était instauré avec Mourinho, et visiblement Mourinho l'a perdu.
Bien sûr.
On l'a vu avec sa petite provocation sur les réseaux sociaux ce matin où il a mis une photo.
Qui a vite disparu.
Il l'a juste laissé, mais il l'avait mis. Il a mis caption this, fait une capture d'écran.
Il l'avait compris, annoncé.
Ça va partir, mais il fait une petite pique, puis il l'enlève vite.
Et quand Franck parle de l'aspect mental sur Paul Pogba, c'est là que ça va jouer. C'est que ce mec-là, qui est rentré en bras de fer avec Mourinho.
Oui.
Aujourd'hui que Mourinho n'est parti, c'est à lui de revenir sur le terrain et d'être ce leader, de dire voilà, on m'a mis de côté, on m'a un petit peu rabaissé, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Moi, je vais être le leader. Moi, je vais vous montrer que c'est moi qui avais raison, que quand je joue et que je joue à mon poste, je suis décisif. Et là, sur l'aspect mental, c'est lui qui doit faire la bascule. Lui et d'autres, mais lui principalement.
C'est pas la première fois qu'on attend Paul Pogba dans le
monde. C'était le cas avec l'équipe de
France technique. C'est-à-dire que c'est les champions du monde qui est là. On sait qu'au milieu de terrain, il n'y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui techniquement, qui sont capables de faire ce qu'il est capable de faire. Donc, il faut que lui aussi prenne conscience que ça devient un maillon fort et qu'on doit pouvoir s'appuyer dessus.
Le dernier, Franck, oui.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est s'offrir un remake de ce que lui a produit en Coupe du Monde. Parce que les critiques, ici même, dans ce studio, je me souviens, les quelques mois avant la Coupe du Monde, on se disait tous, c'est foutu pour Pogba. Et pourtant, il a su le faire. Donc, il faut qu'il refasse ça après avoir digéré cette Coupe du Monde. C'est compliqué pour plein de champions du monde, en plus. Ouais. Mais on l'attend, effectivement, sur cette période délicate. Moi, en tout cas, je l'attends parce que je pense qu'il en a l'étoffe, il en a le caractère et le jeu.
Et on l'attend sur la pelouse du Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.
Forcément.
Au meilleur.
Et lui, et puis les autres. Et peut-être, effectivement, des recrues de taille.
Bien sûr. Martin.
Puis vous le disiez, Eric, c'est le leader technique, mais on l'attend peut-être aussi maintenant comme un leader de vestiaire, ce qu'on soupçonnait pas forcément.
Mais
on l'a vu pendant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, quand on voit toutes les images, c'est lui qui prenait la parole, c'est lui qui avait les discours forts. Là, on le voit que c'est quelqu'un de très apprécié d'autres joueurs, au moins dans le vestiaire. On voit toujours le grand sourire, les vidéos, les checks avec les joueurs, enfin il a l'air d'avoir une relation de complicité
qui sont forts.
Après tu as dit quelque chose de vrai, c'est-à-dire qu'il faut digérer la Coupe du Monde et à un moment donné tous ceux qui ont joué cette Coupe du Monde et qui sont allés jusqu'au bout de cette Coupe du Monde, ils vont avoir un trou physique. Donc est-ce que ça ne va pas arriver au moment où il va vouloir prendre les choses en main, et est-ce que ça ne va pas arriver? On s'attend à tous les joueurs français qui là pour l'instant ça tient.
Mais il a peut-être pas trop joué, lui, pour le coup.
Non, lui, il a peut-être
certains l'ont eu dès le début de la saison, le trou.
Ouais, mais bon, en général, c'est après janvier que ça arrive.
D'accord. On retient ce pronostic. Il y en a un qu'on oublierait presque dans tout ça. Et Mourinho, ce n'est plus lui, donc l'entraîneur tendance en Angleterre, depuis un moment.
On va pas le plaindre, avec ce qu'il va empocher.
24 millions.
Ah oui, alors 24 et quelques. Vous avez le contrat, hein.
Juste quand on arrivait, je notais donc licenciement de Chelsea 2007, c'est 23 millions d'euros. Hein. Ouais. Le second licenciement de Chelsea 2015, 14 millions. Manu, c'est autour de 24-25 millions.
À croire qu'il le ferait presque exprès.
Avec ça, vous pouvez vous arrêter de travailler. Hein.
Ouais, mais bon, il a 55 ans, il a tout gagné.
C'est jeune, hein.
Non, mais c'est trop tard.
C'est jeune. Roger Lemaire vient de signer. Roger Lemaire vient de signer à 77 ans à l'Étoile du Sahel.
À l'Étoile du Sahel, Roger Lemaire, on est content pour lui. Quand même. Le cycle des 3 ans a encore eu raison de lui. Une différence près, c'est que là, il a quasiment rien gagné. Alors, comment il peut rebondir?
Il peut rebondir à Marseille.
Vous le voyez là-bas. Mais Mourinho à Marseille, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il peut rebondir?
Il était venu déloger.
Qui
peut en avoir envie? Qui peut souffrir des présidents et des actionnaires qui ont de l'argent?
Qui a envie aussi?
C'est surtout
vous les voyez aller chercher un entraîneur à ce prix-là?
De moins en moins. Parce que Mourinho aujourd'hui, avant, on faisait venir un entraîneur difficile qui gagnait. Aujourd'hui, on fait venir un entraîneur difficile tout court. Moi, je crois qu'il a énormément écorné son image et que les grands clubs, non pas parce qu'elles ne le respectent pas, mais parce qu'elles ne veulent pas non plus se tirer le diable par la queue ou quoi que ce soit, je pense qu'aujourd'hui les grands clubs vont quand même progressivement tourner le dos à Mourinho. Ça veut pas dire qu'il va pas rebondir dans un championnat plus exotique,
le
dans
Mexique,
une sélection.
les pays du golf, tout ça, il va retrouver des gens qui font
ou une sélection,
nationale,
moi je pense que c'est son
les champions d'Europe,
son vrai challenge maintenant, c'est de récupérer la sélection
avec Ronaldo.
Je ne sais pas quand.
Oui.
Mais peut-être avec
Ronaldo, pas avec Ronaldo.
Pas avec Ronaldo.
Moi, j'y crois pas. Avec Ronaldo, ça serait difficile.
Après, il y a des histoires d'agents qui vont entrer en ligne de compte.
Oui, c'est ça aussi.
En tout cas, ça reste un entraîneur vraiment spécial qui a peut-être ses plus belles années derrière lui. Très cher. Il est très cher.
Il est plus numéro un, mais il est toujours spécial, c'est sûr.
Special Witch. Bon, c'est sûr que moi, en tout cas, je suis beaucoup moins cher.
Mais vous êtes précieux, Eric.
Mais merci, Naïmi. Bah, il faut de temps en temps un remplaçant pour entrer sur le terrain. Allez, et surtout en période de
super sub.
Super sub. Oui, de trêve estivale. Hivernal qui va arriver. Des joueurs de devoir. Oui. Ça me rappelle l'ancien Paris Saint-Germain que je regardais jouer quand j'étais très, très, très jeune avec des joueurs comme Jean-Claude Lemoux. C'est très, très ancien.
Ah, vous avez vu le même PSG que moi.
Voilà, oui, c'était avant. Bon, messieurs, il ne vous aura pas échappé qu'il y avait du tirage dans l'air hier, le tirage au sort de la Ligue des Champions, hein, qui a été décrypté largement dans Radio Foot par l'équipe du lundi. Reste celui des 16e de finale de la Ligue Europa, le trophée qui relie justement Mourinho à Manchester United. C'était il y a 2 ans un bref intérim entre les trois sacres du Séville FC et celui de l'Atlético Madrid l'an passé. Alors il y a un club français qui en est, c'est Rennes. Il va jouer l'autre club de Séville, le Betis. Olivier Létang, le président rennais, souhaitait un gros au Razon Park. Il a eu le Betis. Il en pense quoi?
Le Betis sera favori, mais on a déjà une belle affiche au Razon Park pour tous nos supporters. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable pour nous. Une équipe qui a beaucoup de qualité. On n'est pas 5e de Liga par hasard. Donc, tirage au sort qui est difficile, mais qui est jouable pour atteindre le tour suivant. Bien sûr, le Betis est favori. Ils ont une plus grande expérience que nous en compétition européenne. Comme je disais, on ne va pas gagner au Camp Nou contre Barcelone. On ne va pas gagner à Milan sans être une très bonne équipe. Donc, ils seront les favoris. On n'aura, nous, pas de pression, mais avec la volonté de démontrer à tous nos supporters qu'on est une équipe de qualité.
Franck, j'allais passer la parole à Martin, mais j'ai l'impression que vous aviez un petit truc à dire.
Je voulais vous faire une remarque.
Allez-y.
Il n'y a pas des intonations un peu à la Jean-Michel Aulas?
Ah, c'est vrai.
Si, c'est vrai. J'ai pensé à ça. En l'écoutant parler de ça, cette fausse modestie.
Ah, il
l'écoutait les yeux fermés, Franck.
Non, mais
là,
je crois que c'était Aulas.
Vous avez cru aussi?
Bon, ben, je te jure, c'est
alors, non, c'était bien Olivier Létang, après ce tirage au sort, face au Betis Séville, donc pour le Stade Rennais. Et justement, Martin, Rennes en Coupe d'Europe, ça donne quoi ce jour?
Eh ben, pas grand chose. C'était très, très maigrichon. Il pouvait espérer tomber sur un gros Chelsea ou Naples. Ça va finalement être le Betis, mais qui sera quand même favori. Et Rennes, c'est un événement pour eux. Ils l'ont dit avant leur match de qualification contre Astana. C'était le plus gros match de leur histoire. On avait rarement vu ça. Un public rennais en fusion. On pensait pas que c'était possible, que c'est quelque chose qui allait exister. Et ben là, c'est la première fois qu'ils vont en 16e, qu'ils passent la phase de poules. Ils avaient déjà participé 5 fois à l'UEFA ou au Ligue Europa. Mais c'est la toute première fois qu'ils passent en 8e. Leur dernière qualification, c'était en 2011-2012. Donc c'est pas une participation très régulière, mais c'est déjà un exploit de les retrouver à ce niveau-là. Et ils ont un petit peu rattrapé le bilan plutôt médiocre des clubs français par rapport à Bordeaux et Marseille.
Et le Betis, tout de suite pour enchaîner, c'est un peu meilleur en Coupe d'Europe.
Le Betis, c'est Coupe d'Europe, ils ont déjà participé plus de fois. C'était un club qui s'était un petit peu perdu ces 10 dernières années. Ils ont fait des petits passages en deuxième division, mais alors là, ils reviennent vraiment, vraiment bien. Ils sont 5e du championnat, ils ont beaucoup plus de stabilité. En poule, on pouvait penser qu'ils allaient avoir une poule difficile. Il y avait l'Olympiakos, il y avait le Milan. En fait, ils ont survolé le groupe, ils ont fait 3 victoires, 3 nuls. Ils ont été battre le Milan à San Siro, le Milan qui n'est pas passé. Et puis en Liga, ils sont vraiment très, très bons. Ils ont un jeu vraiment porté vers l'avant. Ils font de possession, ils ont acheté des joueurs comme Losetjo ou Canales.
Ils ont battu du monde récemment.
Ils ont battu du très beau monde. Ils ont été battre le Barça au Camp Nou, 4-3.
On va en parler, effectivement.
Et puis c'est une place forte du foot espagnol, puisque c'est un très, très gros stade, 60 000 places, plus de 50 000 abonnés.
En fusion aussi.
Je pense un peu plus que le Razon Park d'ailleurs. Mais Rennes, quand ils vont se déplacer, je pense qu'ils vont avoir une très grosse ambiance.
C'est une capitale européenne, une capitale du football européen, tout simplement. Il y a 3 stades, faut pas l'oublier.
On en parle dans un instant. Alors, merci Martin pour cette statistique, la collaboration aussi de Gabin, notre stagiaire 3e cette semaine ici à Radio Foot. Vous avez collecté ces statistiques et ça nourrit un peu cette émission. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec Olivier Létang, le Betis Séville est favori et pourquoi?
Cinquième de Liga, c'est mieux que cinquième de D1.
Moi, j'invite les gens à aller voir le Betis jouer parce que on se régale quand même quand on les voit jouer. Il y a du spectacle, ça joue vers l'avant. Alors ils sont pas aussi performants que les équipes qu'on peut retrouver devant comme le Barça, mais il y a vraiment du jeu. Je pense qu'ils prennent du plaisir. On le ressent quand on les voit jouer. On ressent ce plaisir qu'ils prennent à jouer entre eux et à
une générosité
dans
le jeu.
Mais est-ce qu'ils cette 5e place en championnat, pas très très loin du quatuor de tête,
c'est pas tous les ans, puisqu'il fait aussi la différence, c'est que dans ces clubs-là, dans les clubs qu'il y a devant, t'as des individualités qui sont monstrueuses, que n'a pas le Betis Séville, tu n'as pas de grandes go-stars. Joaquin a 37 ans, ça l'a été.
T'as des bons joueurs quand même.
Ouais, t'as des très bons joueurs, mais mais t'as pas de star dans cette équipe réellement d'un. Enfin, peut-être que Lo Celso en sera une un jour. Mais
c'est l'ancien une équipe du Paris Saint-Germain.
Bien sûr, qui est le meilleur buteur avec 8 buts et dont le, certainement le club va lever l'option d'achat, ça me paraît évident. Donc oui, c'est évidemment une belle équipe qui joue bien collectivement, toujours vers l'avant. Le genre de, d'équipe, en fait, c'est simple, c'est le genre d'équipe que Rennes ne joue pas en Ligue 1, tout simplement. Ça, ça n'existe pas, des équipes qui jouent comme. Alors, c'est une équipe qui tente beaucoup vers l'avant, qui marque des buts, qui laisse des espaces et qui peut en prendre aussi. Mais elle est tellement plaisante à regarder, elle a tellement le pied sur le ballon, elle tente tellement des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France, que moi je ne condamne pas Rennes évidemment, parce qu'en Europe et surtout dans le football, tout est possible.
T'as le match retour là-bas aussi, c'est compliqué.
Puis en plus t'as le match retour là-bas, c'est très compliqué.
Naïm, vous le soulignez, je crois qu'en termes de possession de balle, Martin,
pour appuyer ce que disait Naïm, c'est ils ont battu un record de possession de balle sur un match, ils ont fait 85% de possession de balle, donc c'était plus.
Ils ont battu le record de Pep Guardiola,
donc l'entraîneur Quique Setién.
Et je le répète, avec des joueurs qui sont de moindre qualité que ceux de Barcelone, donc ça en dit long sur la philosophie de cette équipe et sur ce que l'entraîneur met en place. Bien sûr que ça va être compliqué. Après, pour Rennes, ça peut. Il y a deux lectures. Soit on se dit, oh là là, c'est meilleur que nous, ça va nous prendre le ballon, on va en prendre une, machin. Soit on se dit, c'est notre première, on est dans le grand bain, servons-nous de ça, même si on se fait éliminer en prenant une tôle, servons-nous de ça pour capitaliser et y revenir l'année qui suit. Et puis, ça peut être pas mal parce que, en fait, c'est ça la Coupe d'Europe. C'est ça le grand bain, j'ai envie de dire. C'est que de la Ligue Europa, c'est que le Betis Séville. Mais c'est ça la Coupe d'Europe.
Il faut la jouer.
C'est tellement devenu rare.
En plus, on a aperçu ce que ça pouvait apporter pour un club de la jouer pleinement avec Marseille l'an dernier. Ça redonne une flamme à l'équipe.
Et puis surtout pour Rennes, parce que Rennes, pas être méchant, mais c'est quand même très souvent le cocu du foot français. C'est une équipe qui perd les finales de coupe.
C'est ça qui gagne jamais.
Qui doit se qualifier en Ligue des Champions, puis qui est battu dans les arrêts de jeu, et puis qu'à chaque fois on les attend, puis finalement ça se passe pas, et puis il y a toujours un truc qui fait que.
Mais Christophe Jousset me disait tout à l'heure, un membre éminent du service des sports, me disait tout à l'heure, c'est l'équipe qui n'y arrive pas.
C'est vrai, non, depuis mais c'est l'équipe qui n'y arrive jamais. Hein, on croit à chaque fois qu'elle y arrive. Mais en plus, elle a toujours des beaux joueurs, il y a toujours des bons joueurs qui passent à Rennes. Il y a toujours une équipe un peu sympa à regarder. Moi, je me rappelle le Rennes de la Slow Bologna avec Alexander Frey, Monte Rubio, Mustapha Agi. C'était une super équipe.
Aussi,
bien sûr, il y a toujours des bonnes équipes. Brahimi était formé là-bas, très bon joueur
Dembélé.
Aussi. Voilà, Dembélé. Non mais ouais, tu vois, aujourd'hui il récupère Ben Arfa, tu vois, c'est des beaux joueurs. Mais collectivement, ça n'a jamais réussi à franchir le cap. Alors il y a ceux qui disent oui, mais c'est parce que leur actionnaire il met pas d'argent. Et puis après on peut dire oui, mais il y a pas réellement d'instabilité.
Il y a eu beaucoup
de changements entre.
On a quelqu'un sur le banc aujourd'hui qui me paraît justement être capable d'instiller cette petite flamme.
Je suis impressionné. Moi je pensais que c'était plutôt Ismaïl Lassar qui vous avait tapé dans l'œil.
Oui, bien sûr. Non mais il y a l'apport de l'entraîneur est indéniable.
Alors l'entraîneur c'est Julien Stéphan. Le fils de Guy Stéphan, l'adjoint donc de Didier Deschamps. Certains disent que c'est même le vrai entraîneur de l'équipe de France. Non, je caricature, mais pas tout à fait.
Il y a un manager de l'équipe de France et il y a un entraîneur.
Julien Stéphan, dont certains disent déjà, après trois matchs, que c'est le nouveau Guardiola.
C'est de la. En tout cas, faut arrêter ça. C'est pas bien pour lui.
Faut pas le griller, parce que. Non, mais c'est vrai, faut laisser les. Faut lui laisser prendre ses marques et surtout. Prouver que puis, justement il a
une Ligue Europa, c'est une belle occasion de le démontrer un petit peu quand
déjà,
même.
Déjà il a fait quelque chose, même s'il récupère.
Il a un début de mandat qui est très bon. Il a 3 victoires en 3 matchs. Il a pas pris de but. C'est très bien pour s'installer.
Il a la confiance de son vestiaire aussi.
Laissons-lui le temps. En fait, le problème à Rennes, si vous regardez bien, c'est que c'est les durées de vie des entraîneurs. C'est 1 an, 14-15 mois, pas plus. Dès qu'il y a une dynamique pas très bonne, tout de suite, ça part. Mais en même temps, vous avez fait 3 présidents en 5 ans dans un club qui, depuis le départ d'Antonetti, c'est l'instabilité même, Rennes. Ça aussi, c'est peut-être à corriger pour avoir un avenir européen.
Non, mais n'oublions pas quand même que quand on voit cette équipe de Rennes au début de saison, moi je m'attendais à ce qu'il soit, il carbure dans tous les sens et qu'il pose des problèmes à toutes les équipes.
Tu les voyais en championnat.
Franchement, je les voyais très bien. Ça ne s'est pas passé. Peut-être qu'il y a eu un problème avec la mouchie. Pourtant, je pensais pas qu'il y avait de problème, mais bon, au fur et à mesure, les résultats ne sont pas là. Donc là, s'il arrive à exploiter la vraie qualité de cette équipe. Je pense qu'il peut, faire des choses intéressantes.
J'ai l'impression qu'il a ça, il a su leur faire prendre conscience, leur faire croire en eux-mêmes.
Et peut-être c'est ce leur important. Enlever une pression.
Oui, leur ôter cette pression. Mais c'est ça le vrai bon management pour moi d'un entraîneur.
Mais c'est le boulot d'entraîneur maintenant.
Quand on dit meneur d'hommes ou je ne sais quoi, mais ce qui est important, c'est ça, c'est donner la confiance ou leur redonner, et ils l'ont et ils sont libérés. Et le cas le plus fort, c'est quand même Atem Ben Arfa.
Ah, c'est Ben Arfa, oui.
Voilà. Bon, on peut pas dire qu'il soit dans une forme extraordinaire physiquement, mais quand il est sur le terrain, il donne sa pleine mesure.
Ouais, Ben Arfa, c'est ça. Alors, je dis pas que c'est tous les joueurs sont comme ça, mais je veux dire, Ben Arfa, c'est 80% de gestion parce que les qualités il les a. Donc c'est si tu ne sais pas prendre Ben Arfa dans le bon sens. Alors c'est difficile de dire ça parce qu'on va dire bah non, c'est pas un sport individuel.
Mais à Nice, ils
ont à un moment donné quand on a un talent pur comme ça, il faut peut-être faire des concessions tout en gardant l'équilibre du groupe et tout ça, mais voilà, pour en tirer le meilleur, le boulot de l'entraîneur, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur. Donc peut-être qu'il y a des joueurs qu'il faut traiter différemment, des fois, même si c'est pas bien dans l'esprit du groupe, c'est pas bon dans l'esprit du groupe. Ouais. Mais si les joueurs sont intelligents et tu observes les choses et tu te dis, lui, je veux dire, même s'il s'entraîne trois jours dans la semaine, mais qu'à la fin de la semaine, il me met trois buts et qu'il me fait gagner tous les matchs, je pense que même les joueurs, quand ils vont voir les résultats, ils vont se dire, ouais, c'est bon, on s'en fout, c'est pas grave, même s'il fait pas tous les entraînements. Et malheureusement, c'est ça, c'est la gestion humaine. C'est 80% du travail d'un entraîneur maintenant. C'est plus, n'importe qui est capable de faire les 20% d'entraînement, tu prends un livre, tu fais des trucs, voilà. La gestion humaine, c'est un vrai boulot.
Vous avez connu ça, vous, dans les clubs? J'ai connu ça. Il y a des entraîneurs comme ça avec certains joueurs.
Il y a des joueurs de talent qui sont peut-être ou plus feignants ou qui ont besoin de, on regarde un Messi. Je prends un Messi. Un Messi n'est pas capable de courir pendant 90 minutes. Donc, on sait très bien qu'on va pas lui demander de défendre, on va pas lui demander. Mais par contre, quand il a le ballon, il y en a pas un qui va dire, ah non, Messi, il défend pas. Mais non, mais il s'en fiche. Parce que le mec, quand il prend le ballon et qu'il fait la différence, on lui dit, reste devant. Et c'est logique. C'est logique.
Pour corroborer les propos de mes collègues, mais, en fait, il y a des joueurs qui sont dans l'affect. Il y a des entraîneurs qui sont dans l'affect, mais il y a des joueurs qui sont dans l'affect. Et si tu sais actionner ce levier, tu obtiendras tous deux.
C'est vrai.
Et c'est, je pense, le cas de quelqu'un comme Atem, parce que je pense que c'est un mec qui a une grande générosité. Mmh. Et on le voit sur le terrain. On voit sa silhouette et tout. On se dit, mais qu'est-ce que ce serait s'il était, il était vraiment encore plus affûté? Et pour le coup, lui, tu peux lui donner cette petite liberté supplémentaire. Et les autres se rendent compte qu'il fait l'effort. Il fournit peut-être un double d'effort. Et du coup, ça équilibre et ça donne raison à l'entraîneur. C'est pour ça que contre le Bétis, même si ça paraît super déséquilibré malgré tout, je me dis pourquoi pas, parce que il va leur dire jouer, lâcher.
C'est ça, c'est les chiens. De toute façon, on prend une volée, c'est normal. Ouais,
on va lâcher les chevaux, pas les chiens.
Les chiens
après les chevaux.
Les deux. Je dis les chiens quand même.
Tu peux faire un parallèle avec Lyon-Barcelone, c'est que sur un match comme ça, tu n'es tellement pas favori, tu n'as tellement aucune pression qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, c'est positif. Pour Rennes, ça peut être une belle épopée parce que footballistiquement on t'attend pas. Mm-hmm. Quand bien même tu éliminerais le Betis Séville, derrière tu as tellement pléthore d'équipes de haut niveau que t'as pas de chance d'aller au bout. Mais capitaliser là-dessus en jouant un petit peu libéré, en faisant de cet affect ton moteur pour le reste de la saison, non seulement tu peux faire un beau parcours européen et remonter au classement. Ce championnat dans cette Ligue 1 tellement bizarre aujourd'hui, Rennes n'est pas spécialement plus mauvais que Monaco, Marseille, que Lille, que Saint-Etienne, que Bordeaux. Il y a la place. Derrière Paris et Lyon, il y a la place.
Ça promet deux matchs avec une très grosse ambiance. On l'a dit à Rennes, ça, ce que Martin constatait lors du dernier match qu'ils ont disputé. Et du coup, du côté de Séville,
grande capitale de football. En Europe, les Français, les stades, non, il y en a deux qui sont superbes, parce que celui qui avait servi pour la finale, il y avait une finale européenne en 2003 ou 2004, je crois qu'il y avait Porto, j'y avais assisté, une finale de coupe européenne secondaire. Il est pas terrible, c'était celui qui avait servi au championnat du monde d'athlétisme. Donc là, c'est une sorte d'usine avec un terrain au centre et une piste. Mais les deux stades, celui du FC Séville et puis celui du Bétis, sont superbes. Et le football français, on connaît bien Séville. Ça nous a pas toujours porté bonheur, notamment en 82.
Ouais,
mais là, c'est voilà.
La belle Andalouse. En tout cas, oui, il va falloir sortir de l'ombre pour le Bétis du Séville FC aussi. C'est l'occasion pour eux cette année, peut-être dans cette Ligue Europa. Les deux clubs en sont, puisque le Séville FC est lui aussi a un beau match à jouer. La Lazio Rome, peut-être l'une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale.
Ouais. Très certainement, oui. Et puis en plus, la Lazio va pas très bien au championnat actuellement.
C'est Galatasaray aussi.
C'est Benfica, Galatasaray.
Ouais, Galatasaray, Benfica, c'est pas mal. Ouais,
c'est pas mal aussi. Ça promet de l'ambiance, quoi, en fait. Et puis il y a les clubs anglais, Arsenal et Chelsea. Alors Chelsea, ça va. C'est Malmö qui sera en face
Naples,
de Zurich. Naples, c'est Zurich. L'Inter Milan, c'est le Rapid Vienne. Et je cherche pour Arsenal ce qu'il en est, c'est le Bate Borisov. Voilà, ils vont aller
Bruges-Salzbourg, ça va jouer.
Donc ça, c'est le match que vous allez suivre tout particulièrement.
Non, parce que j'ai eu l'occasion de les
regarder. Vous avez l'abonnement?
Non. J'ai eu l'occasion de suivre Bruges en Ligue des Champions. Oui. Et puis Salzbourg, il y a quelques talents aussi, on connaît.
On a vu l'an dernier, Salzbourg,
ça joue au football aussi. Donc il y a pas mal de matchs très ouverts. Et puis
cette Ligue Europa, de toute façon, progresse quand même de plus en plus. Aujourd'hui, vous regardez à partir des huitièmes, des quarts de finale, vous avez des équipes d'un niveau Ligue des Champions.
On ne s'ennuie pas du tout.
On va donc pas s'ennuyer en février avec ces trois clubs français qui sont en piste. On va même pas parler de ceux qui nous ont déçus dans cette Ligue Europa.
Si, on peut quand même aller.
Enfin, on s'attendait quand même
dit les noms ou pas, Eric?
Bah, ouais, bon, les Girondins de Bordeaux qui se sont réveillés un peu tard, ouais. Et l'Olympique de Marseille qui a jamais démarré, hein. En fait, c'est ça.
On n'a pas parlé de Monaco.
On parle pas de Monaco.
Ah oui, j'ai oublié. Mais ça, c'était en Ligue des Champions. Oui, c'est pour ça.
C'est pareil, mais.
C'est pour ça. Bon, allez, on en reparlera en février, donc, de cette Ligue Europa.
La meilleure Liga del Mundo.
Leo Messi. Encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Ah, Laurent Salerno, il avait tellement envie, le réalisateur de cette émission, ouais, de le passer, ce petit jingle avec Lionel Messi, auteur d'un triplé encore pour Levante en Liga ce week-end. Le Betis Séville, on l'a dit, est cinquième, hein, de ce championnat d'Espagne, dont on n'a pas parlé hier, parce qu'il y avait le tirage au sort de la Ligue des Champions dans Radio Foot. Alors si on se penchait un petit peu sur cette Liga, c'est très dense en fait en tête du classement cette année, avec le Barça qui fait la course devant, mais il y a les deux clubs de Madrid, l'Atlético et le Real, et les deux donc de Séville qui sont pas très 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 loin derrière. Lionel Messi, lui, il a eu la bonne idée de se rappeler à notre souvenir ce week-end avec un triplé à l'Eventu. On l'aurait presque oublié. Non, pas vraiment. 14 oublié. Buts quand même. Depuis.
Oublié Messi.
Vous
l'avez
oublié? Non, on peut pas.
Non, non,
c'est
non,
impossible.
On peut pas,
Naïm.
On peut pas oublier Messi.
Et j'avoue, j'ai pas suivi ce match. J'étais plus samedi sur l'Atlético Madrid, oui, à Valladolid. Cette victoire 3-2 avec
Antoine Griezmann.
Griezmann, ouais. Stratosphérique, j'ai trouvé. Parce que on regarde et toujours la même chose, c'est-à-dire les buts et les buts qu'il fait marquer, puisqu'il est altruiste. Mais il y a tout le travail défensif.
Ouais.
Et voilà.
Oui, celui qui ne fait pas Lionel Messi, vous voulez dire.
Voilà. Griezmann, c'est un joueur d'équipe. Donc c'est pour ça qu'il. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il est resté là-bas. Et parce qu'il a besoin de tout ça autour. Je pense qu'il aurait perdu un peu son identité au Barça, à mon avis.
Le problème de ce joueur qui fait des saisons monumentales, c'est qu'il est dans le même championnat que Messi, en fait. C'est un autre championnat. Griezmann, ça serait le numéro 1, il n'y a pas de souci. Mais il est dans le championnat de Messi.
Il est contemporain de Messi, voilà. Mais comme l'était à une époque Iniesta, par exemple, ou d'autres. Il y a cet ombre-là, ou Ronaldo, Cristiano Ronaldo.
Quand vous êtes dans les équipes de ces mecs-là, vous êtes le deuxième au minimum. Mais Messi fait une année 2018 tellement extraordinaire, tellement fabuleuse en termes de statistiques. Il a été blessé et revient. Moi, pendant 2-3 ans, je l'ai senti un peu au creux de la vague. En tout cas, je le voyais beaucoup moins progresser que Cristiano Ronaldo. Puis depuis 1-2 ans, je trouve qu'il revient à un certain niveau. Il est d'une efficacité absolument redoutable et il correspond bien au Barça de Valverde qui finalement privilégie l'efficacité à la qualité. C'est pas toujours beau le Barça, on s'ennuie un peu, c'est pas toujours terrible.
Ouais, c'est forcément
prennent des buts des fois, tu dis mais comment tu fais pour prendre des buts face à des équipes pareilles? Mais ils sont capables de tout retourner, ce Barça-là peut tout retourner et Messi actuellement à 31 ans, il peut tout retourner.
Ouais, mais c'est plus facile. Je voulais juste faire le point. C'est plus facile pour un Messi qu'on préserve. C'est-à-dire que il joue un petit peu la carotte, comme on l'appelle dans le football. C'est-à-dire que forcément il a le talent, mais en plus derrière, si on le laisse un peu se reposer et récupérer le ballon, forcément il fait ça depuis longtemps en fait. Donc ça change rien pour lui.
C'est la dernière minute de l'émission. Pratiquement.
On veut des arrêts de jeu, nous.
Juste pour vous dire une chose, le Real lui a fait le boulot. Hein. C'est pas non plus flamboyant. Hein. Mmh. Karim Benzema a mis le but qu'il fallait mettre pour battre le Rayo Vallecano. Un beau but. Ils sont envolés directement pour le Mondial des clubs face aux Japonais de Kashima Antlers. C'est la demi-finale demain, avec l'espoir de jouer bien sûr cette finale. Ils sont abonnés à cette finale. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Real de abonner chaque année à ce Mondial des clubs? Est-ce qu'il n'y a pas un petit contre-coup derrière?
Physiquement, si.
Naïm, oui.
Parce qu'il y a le voyage, il y a le climat aux Émirats, et puis forcément les matchs que tu joues pas, faut les rattraper, ça alourdit ton calendrier à un moment dans la saison, et comme ton banc est pas extensible, surtout cette année, à un moment donné tu vas le payer. Ça, chaque année tu le payes, cette année peut-être encore plus.
Ça crée pas une dynamique de gagner un titre là à ce moment-là de la saison.
C'est bien de la saison,
mais pas ce titre-là.
Pas ce titre-là.
Ça gonfle les stats, mais c'est pas le plus important.
Bon, un match face aux Kashima Antlers, on imagine qu'ils vont aller forcément en finale. Ça peut promettre une.
Forcément.
Non.
Ils sont favoris, évidemment. Après, tu sais pas ce qui peut se passer là-bas.
Bon, l'espérance de Tunis, en tout cas, n'est pas allée plus loin que le premier tour. Franck, on est un petit peu déçu face au club d'Al Ahly. Ils sont pris un 3-0. Les Africains ne sont plus au rendez-vous depuis quelques temps.
Hélas, voilà.
Vous le déplorez. Vous voudriez le retour du TP Mazembe, c'est ça?
Ou d'autres. Mais l'espérance nous avait fait une super remontada. Dommage, il n'assure pas dans cette compétition.
Franck Simon, Eric Rabessandratana, Naïm Moniol, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Martin Guez également, pour cette collaboration. Merci. Laurent Salerno derrière la vitre. Bye bye.